I still have a dream.
Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme.
On n'a pas que l'amour.
Tout homme est, à plus forte raison, tout artiste désire être reconnu. Je le désire aussi.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver sur les ondes de RQC. Il n'y a pas péril en la demi-heure. Un nouveau concept, un nouveau format. Une demi-heure pour aborder avec des invités des sujets de société, des sujets d'actualité, en partant d'un événement culturel organisé ou non par le Centre culturel. C'est tous les troisièmes vendredis du mois, entre 13h et 13h30 sur RQC 95FM. Dans cet épisode, nous parlerons précarité au pluriel avec Maryse Courrouble de l'association moucronoise Espace Racine Carrée. Nous entendrons aussi le témoignage de moucronois qui vivent la précarité au quotidien. Interview recueillie par Maryse, Sully et Thierry du Centre culturel que nous saluons d'ailleurs. 2 150 000 Belges, soit 18,6% de la population, courent un risque de pauvreté ou d'exclusion sociale. C'est ce qui ressort des chiffres de la pauvreté pour l'année 2023, publié par Statbel, l'Office belge de statistiques. Plus de 6 000 personnes sont en situation de privation matérielle sévère, ce qui signifie qu'elles ne parviennent pas à satisfaire leurs besoins essentiels, comme par exemple chauffer convenablement son domicile, s'offrir un repas équilibré, remplacer des meubles endommagés ou encore participer de manière régulière à une activité de loisir telle que du sport. Au niveau des personnes sans-abri, leur nombre augmente chaque année. De 2008 à 2024 à Bruxelles, le nombre de personnes dormant en rue a presque quadruplé. Le dernier dénombrement de Bruxelles Help fait état de 7134 personnes sans-abri dans la capitale. Le seuil de pauvreté a augmenté de 84 € en 2023 pour atteindre 1450 € par mois pour une personne isolée, tandis qu'il s'élève à 3 045 € pour un ménage de 2 adultes et de 2 enfants. Cette augmentation s'explique par l'indexation des allocations et des salaires liées à l'inflation persistante et la crise énergétique de 2022. Cependant, cette augmentation n'a pas permis de faire baisser le risque de pauvreté monétaire. 12,3% de la population connaissait en 2023 un risque de pauvreté si on se base sur le revenu net. Cela concerne 1 438 780 personnes. Ça ne risque pas de s'améliorer. Selon l'enquête, 15,5% de la population belge indique avoir des difficultés ou de grandes difficultés à s'en sortir. Faut-il préciser que pour cette enquête menée par Statbel, certains groupes de population comme les personnes sans-abri, les personnes en séjour illégal, les ménages collectifs ne sont pas pris en compte dans l'enquête parce qu'ils ne sont pas inscrits dans le registre national des personnes physiques. La précarité au pluriel, voilà l'intitulé des tables citoyennes et politiques organisées le samedi 9 novembre par Espace Racine Carrée en collaboration avec le Centre culturel. Maryse Courrouble, fondatrice de cette ASBL, est l'une des chevilles ouvrières de cette journée. Alors bonjour Maryse.
Bonjour Cédric.
Merci d'être avec nous. Pourriez-vous dans un premier temps nous présenter votre, on va dire, presque association, puisque Espace Racine Carrée, je dis presque parce qu'elle est en passe d'être créée.
Alors, Espace Racine Carrée vient d'une idée citoyenne et de quelques professionnels qui discutaient autour de différentes thématiques, dont celle de la problématique du logement. Et puis, ils avaient tous envie, en tout cas, de faire quelque chose et de se questionner davantage autour de ces différentes problématiques. Et de fil en aiguille, ils se sont dit que le logement, en réalité, c'est le toit de toutes les précarités que l'on peut éviter. Et donc là, on s'est questionné sur précarité, pauvreté, quelle est la différence. Donc,
c'est oui, un peu justement, de la... c'est intéressant de faire cette distinction. Je ne sais pas, en fait, si vous aviez une définition des deux.
Il y a différents courants, mais en tout cas, le courant pour lequel nous avons opté, c'est celui de dire que la précarité se définit par le fait qu'une personne, dans un domaine de de la vie mm-hmm. peut avoir des difficultés et donc tomber en dans le cadre de ce domaine. On prend l'emploi, une perte d'emploi, c'est la précarité de l'emploi. Une perte de logement, c'est la précarité du logement.
D'accord.
Et mm-hmm. donc, quand une personne commence à tomber dans une forme d'été, puis dans une seconde, dans une troisième, elle cumule. Et alors, nous, on a pris le choix de prendre cette sémantique-là, c'est qu'on définit alors quelqu'un qui tombe dans la pauvreté, voire dans la grande pauvreté.
Lorsque la personne cumule différentes formes de précarité.
Différentes formes de précarité. D'accord. Et donc, la prévention, elle est à mettre là, oui. c'est-à-dire à pouvoir essayer d'identifier quelle personne tombe dans un domaine de précarité pour éviter que ça s'enchaîne et éviter qu'on tombe dans
le cercle vicieux
la grande précarité. Et donc, suite à ça, les membres du groupe ont alors décidé de se questionner sur les précarités, mais jamais, en tout cas pour nous, on va appeler ça les précarités. On préfère utiliser la précarité au pluriel parce que ça questionne. Et on a eu beaucoup de retours par rapport à ça. Pourquoi vous avez utilisé la précarité au pluriel? Mais justement, c'est pour ça, c'est pour vous interpeller.
Pour revenir donc juste sur l'association en deux mots, donc Espace Racine Carrée, pourquoi ce nom?
Espace parce qu'on veut créer un lieu d'accueil bas seuil. Bas seuil signifie que c'est un lieu où tout le monde peut pousser la porte. Je dis bien tout le monde. Celui qui est touché par l'été de la pauvreté ou non. Celui qui est en sortir de son isolement, de passer du temps, il n'y a aucune obligation de pouvoir faire quelque chose. Et ça n'est pas une porte qui est poussée dans l'obligation de parler.
Il n'y a aucun critère libre. Pour justement accéder à cet espace.
Non,
espace de solidarité.
C'est pour recréer du lien entre les gens, avec, si la personne le souhaite, une permanence sociale qui pourra entendre, prendre le temps. Apparemment, les grands services sociaux des grandes institutions maintenant sont limités. Dans le temps, vu le nombre de dossiers. Et donc, prendre le temps d'analyser la situation pour être capable de mieux orienter les personnes vers les services sociaux existants et que la personne ne se fatigue pas non plus à pousser une porte, c'est pas la bonne, à aller repousser une autre et puis à se décourager. Donc, c'est aller vers la précarité plutôt que d'attendre que les gens aillent vers les services parce que pour certaines personnes, c'est la démarche à faire. C'est pas de l'assistanat, c'est repermettre à la personne de reprendre sa situation en main.
Votre objectif, c'est de coordonner un petit peu tous ces services, d'être la porte d'entrée pour ces personnes-là. Et le côté administratif, on le sait, est très lourd.
En cas, oui, c'est de faciliter pour les personnes l'orientation vers les bons services. Parce que bien souvent, c'est « mais à qui je dois m'adresser ?» Ah ben, ça va être au CPS. Ah ben non, pour ça, c'est pas chez moi. La personne ressort et puis... Donc voilà, c'est pour, en tout cas, être complémentaire et amener les personnes à pousser les bonnes portes au bon moment.
C'est ça. Et comment est-ce que cette association va fonctionner concrètement?
Alors, pour le moment, nous sommes à la recherche d'un local pour pouvoir accueillir effectivement le public.
Vous avez déjà des pistes?
On a eu l'espoir, en faisant une demande, que la ville allait accorder, enfin nous mettre à disposition un petit local pour commencer nos activités. Malheureusement, on a eu une réponse négative, disant que le projet n'était à ce stade pas suffisamment abouti. Donc, j'espère qu'avec l'action qui s'est déroulée samedi, les regards seront différents et qu'on va pouvoir nous aider. On est sur quelques pistes. Mais là, ce serait une coordination, en fait, aussi avec des services qui ouvrent, tels que l'abri de nuit, l'abri de jour, les Restos du Cœur, Estrella, donc d'autres grandes structures qui ouvrent en période de grand froid davantage de services. Mais c'est encore trop peu. Si on arrive à se coordonner, peut-être qu'on pourra soulager certains services et se répartir des moments qui sont plus compliqués, tels que les samedis, les dimanches, les jours fériés, etc.
Vous l'avez déjà un peu dit tout à l'heure, mais qui compose Espace Racine Carrée? Ce sont des citoyens, des bénévoles, des professionnels également?
Alors oui, il y a les deux. Donc on a, je trouve, l'honneur et l'avantage d'avoir des citoyens qui eux-mêmes se questionnent. et ont parfois des préjugés. Donc, on fait pas mal d'éducation permanente quand même autour de la question avec les membres fondateurs de cet espace Racine Carrée. Et puis alors, nous avons des professionnels. Donc, il y a le Centre culturel Moucronois qui est représenté. Il y a aussi un éducateur de rue qui est présent. Il y a une éducatrice de la maison maternelle. Donc oui, il y a
le secteur de la santé également où c'est envisageable.
Ouais. Oui, tout à fait.
On en vient donc à cette première action quand même d'envergure, la précarité au pluriel, qui s'est déroulée donc le samedi 9 novembre. Pourquoi ce titre ? Vous avez déjà répondu à cette question. Il y a différentes formes de précarité. Précarité monétaire, privation matérielle, le travail qui est essentiel aussi dans ce cadre-là. Alors, pour préparer cette journée du 9 novembre, vous êtes partie donc à la rencontre de personnes touchées par une ou plusieurs formes de ces précarités, avec Sullivan et Thierry du Centre culturel Moucronois. 6 personnes ont été interviewées avec des profils différents, on va dire.
Tout à fait. On a essayé, en tout cas, de déterminer un peu des profils pour ne pas qu'on tombe dans l'extrême où chacun va pleurer dans sa chaumière. Non, on voulait aussi montrer qu'on peut sortir de l'extrême pauvreté, on peut sortir de la rue, on peut rebondir, on peut y arriver. Et donc, on a vraiment choisi différents profils avec des personnes qui étaient à la rue, qui ont pu s'en sortir, qui ont encore des difficultés, ou d'autres qui s'en sortent très bien maintenant. La précarité chez les jeunes, on a interviewé une jeune fille qui est touchée, elle, indirectement par la précarité de ses parents et qui l'exprime très très bien. Et donc on voit que cette jeune fille est déjà elle-même cassée de cette précarité.
4 questions leur ont été posées. La première question était: pour vous, qu'est-ce que la précarité ? On en écoute un extrait.
Le début un peu de la déchéance, si je peux me permettre, où on commence à se rendre compte qu'on a des difficultés, qu'on a des soucis, et puis que tout doucement ça augmente et que ça s'aggrave de plus en plus.
Avec 1200 pour un couple ou 1300, c'est pas assez, quoi. Au moins 2000 euros pour vivre normalement. Faut bien compter, si on paye un loyer, on a les factures pour prendre l'assurance incendie, il y a le gaz, l'électricité, c'est juste, on a presque rien pour manger, quoi. Et si on a des enfants, les couches et les habits, ça, on pense pas, mais c'est énorme.
D'avoir besoin d'aide et qu'on vous donne pas l'aide dont vous avez besoin. Donc là, vous partez dans une déchéance, et c'est de pire en pire. Et pour moi, ça serait ça, la précarité. Puis ça peut aller jusqu'à la pauvreté, ça c'est sûr.
Ça veut dire que c'est très cher, la vie est très chère. Ça veut dire qu'on peut pas louer une maison si t'as pas de contrat de travail. Si t'as pas d'argent, tu peux rien faire. On peut pas trouver quelque chose si on n'a pas d'argent.
La précarité, donc, c'est déjà une personne sans identité. Sans identité, pas le droit au CPS. Pas le droit au CPS, pas le droit de logement. Pas le droit de logement, droit à rien du tout. Et qui dit rien du tout va se retrouver dehors. Je suis comme un fantôme. Je ne vis pas.
Le plus dur pour moi, c'est de voir mes parents souffrir chaque jour à cause de la précarité. Car ils se privent pour manger pour que nous, on a quelque chose dans nos assiettes. Ils ont des habits qui datent d'une dizaine d'années parce que tout leur argent pour les habits sont pour nous. Nous, on grandit, donc on est jeunes, on trouve nos habits. Donc il nous faut des habits corrects pour, par exemple, l'école. Mais eux, ils ont des habits qui datent d'une dizaine d'années. Ils grandissent plus, ils peuvent les garder, ils trouvent pas tous leurs habits. Mais du coup, ils ont des habits tout décolorés, ils ont des habits vieux.
Alors, ces témoignages sont très touchants. Qu'est-ce que vous retenez de ces rencontres ? C'était une réalité que vous connaissiez déjà ?
Une réalité que je connaissais déjà. Je vais dire que chaque personne a sa réalité. Donc, on redécouvre à chaque fois d'autres problématiques, d'autres manières de vivre ces problématiques. Et ça, il faut je pense, respectée. Moi, en tant qu'assistante sociale, ça reste difficile d'entendre des réalités qui sont très, très prenantes pour les gens. De me dire que finalement, depuis toutes ces années, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé, mais indirectement, si, que c'est dommage qu'on en soit encore toujours là aujourd'hui. Et je crains que l'avenir ne soit pas forcément meilleur. C'est pour ça qu'il faut penser positif et évolution, coordination de tous ces services pour passer au-delà, au-devant de cette précarité. On a une phase où il va falloir soigner, il faut arrêter de mettre des pansements qui c'est ne ça. Servent à rien ou les d'utiliser prévenir. Un extincteur pour éteindre un incendie. Et je pense que dans notre réflexion, c'est un peu ça aussi qui nous a poussé à penser à cet espace parce qu'on s'est rendu compte que dans le travail social, tout avait été saucissonné. C'est-à-dire qu'on a répondu à l'urgence sociale et donc on a développé des services en lien avec tel type de problématique, tel type. Et donc on a tout saucissonné. On a ouvert des services, et c'est très bien, mais qui sont spécialisés dans tel type de problématique, pour tel type de personnes, etc. Et c'est ce qui rend compliqué l'orientation des gens aujourd'hui.
A-t-on une idée du nombre de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté à Moucron, ou le nombre de personnes qui vivent dans la rue? Non.
Y a une enquête qui a été réalisée par le relais social urbain de Tournai, assez récemment. On pourrait retrouver les chiffres, je pense qu'il y a les chiffres de Moucron qui doivent s'y retrouver. Je sais aussi qu'une personne dans l'équipe, le coordinateur de l'équipe des éducateurs de rue aime bien tout ce qui est sociologie et donc il fait des études, etc. On va probablement l'inviter lors d'une de nos réunions pour mesurer un peu l'ampleur sur Moucron.
Et ça se passe chez nous, dans notre ville, et nous n'en sommes parfois pas conscient, on détourne parfois le regard pour nous épargner peut-être. Ça nous dit aussi qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour remédier à cela.
Énormément, mais je pense aussi que la base, c'est arrêter l'individualisme et repenser la solidarité. Repenser à tisser du lien social. Toutes ces personnes qui vivent dans des états de précarité plus ou moins différents, pour moi, ont toutes à apporter quelque chose. On a tous quelque chose à apporter à l'autre.
C'est ça.
Et donc, recréer ce lien social, ce bien-être, savoir qu'on peut compter l'un sur l'autre, c'est primordial pour qu'une personne puisse se prendre en charge, puisse se prendre en main et avancer dans sa situation.
Vous leur avez demandé donc à ces personnes interviewées quels étaient pour eux les services en lien avec la lutte contre les précarités, ce qui devait être amélioré, ce qui devait être développé ou alors créé carrément sur la commune de Moucron. On les écoute.
Ben, je sais qu'on a plusieurs foyers, je sais qu'il y a des éducateurs de rue, je sais qu'il y a la maison de la santé, il y a l'Estrella, il y a les Restos du Cœur, ce qui est déjà énorme, mais ce sont toujours des points ciblés. Donc le fait de pouvoir ouvrir un accueil pour tout le monde, que tout le monde puisse discuter, s'épanouir, être sur le même pied d'égalité, le même piédestal, entre guillemets, il n'y aura pas des plus grands, des plus petits, des plus faibles, des plus pauvres, des plus riches. Mais je pense que c'est bien pour le moral, pour la santé mentale et ça permettra de continuer à vivre, de s'épanouir et de devenir un peu plus heureux.
Bon, l'abri de nuit, les Restos du Cœur, c'est pas mal non plus, parce que bon, manger pour 1 euro, c'est bien quand même, c'est pas donné à tout le monde. L'abri de nuit, l'abri de jour, qu'il n'y avait pas à l'époque.
L'abri de nuit, l'abri de jour, bon, c'est des choses à laquelle on tient quand on est SDF, bien évidemment, parce que c'est la seule chose sur laquelle on peut se raccrocher. Mais moi, ce que je dirais, c'est que l'hiver passé, par exemple, ils ont eu des soucis de personnel, donc ils ont simplement fermé. Le souci, c'était nous. Qu'est-ce qu'on faisait? On était dans la rue toute la journée. On attendait le soir pour aller vite à l'abri de nuit. Et même la structure de l'abri de nuit, à un moment donné, ils ont fermé. Heureusement, le Resto du Cœur nous a accueillis avec des tentes. On s'est retrouvés en tente, dans le froid, le Resto du Cœur qui nous donnait à manger. Enfin, c'était la folie, tous les services étaient fermés, on n'avait rien, on n'avait personne. Par contre, moi, je trouve que les SDF, ils doivent rester justement accrochés à ces structures. Pourquoi ? Parce qu'on a des aides. Il y a des éducateurs qui sont derrière nous, qui nous dirigent vers certains services, des choses qu'on doit faire pour s'en sortir. Si on n'est pas dirigé, si on n'est pas un peu suivi, déjà quand on est SDF, on est perdu. Donc il faut vraiment tenir compte que là, au moins, on peut avoir des aides. Même morale, hein, c'est important dans ces moments-là.
Que les abonnés de nuit soient ouverts beaucoup plus longtemps, qu'on n'ait pas des jours maximum à respecter pour dire « laisser la place aux autres ».
Bah, du coup, il y a le CPS. C'est très chouette. Il nous aide beaucoup avec l'intégration sociale. Il y a les boîtes alimentaires. Il y a certaines zones, ils font des habits aussi. Ils donnent des habits d'endroits pas loin. Côté administratif, ben, je dois donner la fiche de salaire à ma mère chaque mois. Si je la donne pas, je suis punie. Donc restriction, retirage de salaire. Salaire qui n'est déjà pas très grand. Sans ça, je ne peux plus manger, je ne peux plus me vêtir, je ne peux plus faire les activités à l'école. Sans ça, je ne suis plus vraiment grand-chose, on va dire. Mais le déclic est une amo. Toutes les activités qui y sont totalement gratuites. Personnellement, ça m'a bien sauvée. J'ai été au déclic il y a 3 ans. Et depuis, j'y vais tous les mercredis sur 2, jusqu'à 18h. Après les cours, donc énormément de temps, mais c'est libérateur pour moi, c'est waouh. Je fais des activités de chant, je fais des activités avec plein de jeunes qui ont plus ou moins les mêmes problèmes que moi, et sans ça, je ferais rien de mes journées. Parce que les trucs gratuits comme ça, il n'y en a pas beaucoup.
Comment lutter donc contre cette pauvreté en Belgique et plus spécifiquement à Moucron ?
Je pense que c'est assez bien exprimé. Moucron a déjà développé beaucoup de choses et c'est très bien. Tout ce qui existe a le mérite d'exister. Maintenant, je pense qu'il faut qu'on travaille ensemble pour que tout le monde puisse identifier ce qui existe. Oui. Parce qu'on se rend compte que malheureusement, il y a quand même pas mal de choses qui existent et les gens n'en ont pas connaissance. Donc ça, c'est vraiment dommage, quoi. Le fonctionnement, je pense, ça c'est pas dans les témoignages, mais dans les débats qu'on a eus avec les gens, l'existence de douches publiques, de machines à lessiver, etc., ben, le fonctionnement, finalement, il n'y a pas grand monde qui sait, même dans les travailleurs sociaux, on ne sait pas trop, il n'y a pas de diffusion de l'information, et donc cette information manque.
Et comment proposer un accompagnement dans l'urgence, mais aussi surtout dans garantir la sécurité et la dignité des personnes ?
Je pense qu'il y a une première accroche à réaliser, c'est que au début de ma carrière, on n'avait pas ces exigences actuelles des services sociaux, ben, tu as 10 heures même au forum pour un demandeur d'emploi. Les rendez-vous sont limités dans le temps parce qu'il y a beaucoup de dossiers, parce qu'il y a beaucoup de monde. Et donc, il n'y a plus vraiment la possibilité de consacrer du temps aux gens. Donc moi, je pense qu'il faut vraiment reprendre ce temps pour pouvoir orienter au mieux et pour pouvoir évoluer au mieux. Et c'est peut-être notre espace permettra de créer cette accroche, de créer cette confiance pour pouvoir accompagner, pour pousser la porte d'un service qui est plus difficile qu'un autre à pousser parfois, accompagner dans les démarches pour que la personne après soit autonome. Donc, mais je l'ai déjà dit une fois, c'est aller vers la précarité et ne pas attendre que la précarité vienne aux services sociaux, parce que bien souvent c'est trop tard. Les gens sont trop loin. Chose à faire avancer, c'est compliqué pour les gens.
Vous l'évoquiez tout à l'heure en présence de Christine Mailly du réseau Wallon de lutte contre la pauvreté. L'association des citoyens, ce samedi 9 novembre, pour lutter contre la précarité au sein de notre commune de Moucron. Autour de tables rondes, il y avait quatre grands pôles qui ont été abordés : le logement, et ce qui en découle évidemment, l'énergie, la précarité hydrique, la santé, les soins, mais aussi l'hygiène, bien-être. Et les... le troisième, complexité, les complexités socio-administratives, dont, et également la fracture numérique et l'isolement social, et enfin le fameux pouvoir d'achat. Qu'en est-il sorti de ces tables rondes? Est-ce que vous pourriez nous faire un condensé, un résumé de tout ce qui s'est dit?
Alors, notre objectif étant d'être positif et de construire avec nos représentants politiques, qu'ils soient dans la majorité ou dans l'opposition, on a demandé un exercice quand même aux citoyens qui n'était pas si évident que ça. Il ne suffisait pas de dire « oui, mais il y a ça qui ne va pas ». Non, il fallait qu'ils mettent des propositions concrètes sur la table, comme s'ils étaient politiciens. Bah, tiens,
c'est ça.
Vous, dans la situation, comment vous feriez pour ? Et donc, il y a vraiment eu de très, très chouettes propositions
qui peuvent se concrétiser. Oui, voilà, concrétiser, ouais.
Oui. Maintenant, c'est une volonté politique, mais le choix de la date de notre événement était voulu après les élections.
Bien sûr.
Mais avant
la mise en place,
la prestation de serment des nouveaux élus, parce que c'est dans cette période-là qu'une déclaration de politique communale doit se construire.
Tout à fait.
Et donc, il y a, pour citer quelques exemples, notamment sur la précarité hydrique, on a parlé de la douche qui existe, mais on ne connaît pas le fonctionnement. Donc, bien plus donner des informations, que les informations soient visibles. Pourquoi sur le site, ça n'y est pas, etc. Donc, informer. Mais des gens ont parlé aussi d'utiliser des espaces qui existent déjà. Comme par exemple les infrastructures sportives qui en journée, et les vestiaires qui en journée pourraient, sans coût supplémentaire, maintenant il y a peut-être la gêne d'avoir des douches communes, les infrastructures sportives sont aussi délocalisées sur Erzo, sur Dottigny. Ça permettrait de répondre. Ça, c'est vraiment une proposition hyper concrète au niveau des soins de santé. Il y a un manque quand même pour les personnes qui vivent à la rue ou même d'autres personnes très, très précarisées. C'est les soins. L'accès aux soins, ces personnes-là vont pas, même s'il y a une maison médicale, la maison médicale est déjà overbookée, et donc, de créer un poste d'infi de rue, est-ce que c'est pas utile, finalement, ou une petite camionnette qui pourrait, soit petit bobo, éviter les surinfections, etc., et donc, c'est pas mal de soucis, et puis, on veut, mais les soins de rue, c'est aussi un point d'accroche, c'est aussi l'attention qu'on apporte aux personnes, pour qu'elles puissent se livrer, etc. Donc, culture, loisirs, tout ça aussi a été abordé.
L'accès plus,
la fracture numérique, les espaces numériques se mettent en place.
Alors, ces citoyens ont été présentés durant l'après-midi à nos politiques afin de les aider à construire, vous le disiez tout à l'heure, la déclaration de politique communale sur les affaires sociales pour les 6 prochaines années. Comment ont-ils réagi donc, à ces propositions? Ils ont également écouté les témoignages donc, que vous aviez recueillis. Quel était leur ressenti, quel était leur discours?
Ces témoignages ont été projetés 2 fois. Et les 2 fois, en tout cas, quand la lumière s'est rallumée, qu'on a installé les pour les représentants, on sentait que l'ambiance était lourde, qu'il fallait un petit moment pour se poser. Et donc, effectivement, ce qui a été apprécié, on n'est pas été chercher des gens pour faire pleurer dans les chaumières, comme je disais tout à l'heure. On a eu des témoignages, et tous les témoignages, les 6, très positifs, mal vécus déjà. Ça a été très fort apprécié, le fait qu'on est dans une question qui est difficile à aborder, mais qu'on pense positif. Ouais. On pense à l'évolution et on montre qu'il y a moyen de s'en sortir, mais que pour ça, on a besoin d'aller vers les gens. Les échanges entre les politiques étaient... on ne souhaitait pas que ce soit un débat politique. Ça n'était pas un débat politique, c'était vraiment un espace où on faisait remonter les idées citoyennes pour les... Tiens, voilà, qu'est-ce que vous pensez qui est envisageable, etc. Et voilà, on a vu des représentants politiques prendre beaucoup de notes et effectivement valoriser les idées qui avaient été avancées par les citoyens.
C'était donc, ça aussi l'objectif de cette journée.
C'était l'objectif, en tout cas pour l'objectif. C'était construire ensemble l'avenir de demain sur la lutte contre la précarité au pluriel sur Moucron. Je souhaiterais en tout cas valoriser aussi le travail que Christine Mailly, donc la secrétaire générale du réseau de lutte wallon de lutte contre la pauvreté, a réalisé durant ces échanges. Elle a pu apporter son expertise et apporter différentes autres grandes villes, donner des idées de ce qui existe pour qu'on puisse s'en inspirer.
Merci beaucoup pour cette entretien, en tout cas.
Merci beaucoup aussi. Merci.
Voilà, il n'y a pas péril en la demi-heure, c'est terminé. On se donne rendez-vous dans un mois, le troisième vendredi du mois entre 13h et 13h30. Et sinon, vous pouvez nous retrouver en podcast sur le site de RQC et celui du Centre Moucron, culturel de Moucron.be. À bientôt. And I'm feeling good.